François Graner, bonjour.
Bonjour.
En avril 2015, le président Hollande a promis l'ouverture de toutes les archives françaises concernant le génocide de 1994 au Rwanda. Aujourd'hui, où en est-on ?
Il avait demandé l'ouverture avant fin 2016 et l'année 2016 est terminée et on n'est pas du tout dans une situation d'ouverture parce que en France on a deux verrous. C'est comme une porte où il y aurait deux serrures différentes avec des clés détenues par deux personnes différentes. Il y a ce dont parlait François Hollande, c'est le secret défense, tout ce qui concerne les militaires. Et là, une fois que François Hollande a fait lever les obstacles liés au secret défense, et ces obstacles ont été levés, il reste un deuxième verrou, c'est que les archives présidentielles ont aussi leur propre verrou. Et les archives de François Mitterrand, elles ne sont pas consultables pendant 50 ans, sauf dérogation demandée, et demandée à qui ? À une personne privée, qui est le mandataire que François Mitterrand a désigné avant sa mort, en l'occurrence Dominique Bertinotti. Eh bien, même si donc le premier verrou a été levé, si le deuxième verrou reste, eh bien, les archives ne sont toujours pas ouvertes.
Un mot sur le premier verrou. Grâce à Hollande, avez-vous obtenu la possibilité de consulter les archives des services secrets français, et notamment de la DGSE ?
Une partie des archives de la DGSE, effectivement, a été déclassifiée. Et une des choses qu'on a pu préciser, c'est par exemple pour une affaire qui est importante dans le génocide des Tutsis et le rôle d'intervention française, c'est ce qui s'est passé à Bicécéro entre le 27 et le 30 juin 1994, où des rescapés Tutsis du génocide ont été massacrés par des milices Hutus sans que les Français, l'armée française qui était présente, n'intervienne. Et donc, une des questions liées aux plaintes actuellement portées par les rescapés et l'association survie contre l'armée française, c'est que l'armée française était au courant. Eh bien, on voit dans les documents de la DGSE que j'ai pu consulter que les services secrets informent jour par jour la haute hiérarchie française, en l'occurrence l'amiral Langsad, chef d'état-major, et le général Queneau, conseiller militaire de Mitterrand, de la situation des Tutsis de Bicécéro qui sont en train de se faire massacrer.
Alors, le deuxième verrou, vous le dites, hein, c'est celui qui concerne les archives de François Mitterrand, président de la République de l'époque. La mandataire, elle s'appelle Dominique Bertinotti. Est-ce que cette mandataire bloque plus les archives Mitterrand concernant le Rwanda que les archives Mitterrand concernant d'autres dossiers ?
D'après ce qu'on nous dit, les archives nationales, oui. C'est-à-dire, dans la quasi-totalité des cas, quand les archives nationales recommandent d'autoriser une dérogation, elles suivent leur avis. Et là, on est dans un cas rarissime où elle seule n'a pas suivi leur avis et n'a pas donné accès à cette demande.
Ce qui laisse entendre qu'il y a des choses à cacher ?
Je ne sais pas, mais évidemment, ça entretient les soupçons et ça ne peut qu'entretenir les polémiques auxquelles on veut mettre fin par un travail historique sérieux, un travail de fond.
Les archives Mitterrand sur le Rwanda, ça représente combien de pages ?
À peu près 10 000 pages, en gros, hein, un ordre de grandeur, pour ce qui concerne la partie de Mitterrand et de ses conseillers sur l'intervention française avant et pendant le génocide des Tutsis.
Et sur ces 10 000 pages, combien ont été dévoilées et combien reste à dévoiler ?
Dans le dossier que je suis en train d'essayer de consulter actuellement, je pense qu'il s'agit plutôt de dizaines de pages à découvrir. Donc, on arrive à une quasi-totalité des archives Mitterrand sur le Rwanda stockées aux archives nationales qui soient dévoilées. Mais par contre, toutes celles qui n'ont pas été stockées, celles des conseillers militaires de Mitterrand, celles du service historique des armées, je n'ai aucune idée de leur ampleur et ce sont probablement les archives militaires qui sont donc les plus importantes.
Alors, suite à ce blocage, François Graner, vous avez déposé ce qui s'appelle une question prioritaire de constitutionnalité. Vous pouvez, une QPC, vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
C'est une procédure récente qui permet aux citoyens de base d'avoir accès au Conseil constitutionnel dans certains cas. Là, j'ai fait un recours contre les refus de Mme Bertinotti et ma seule solution en tant que citoyen, c'est de faire constater que la loi, a priori, n'est pas conforme à la Constitution parce qu'elle n'est pas conforme aux libertés fondamentales et en plus, elle ne permet pas de recours contre une décision administrative.
Alors, quand on sait qu'il y a dans le Conseil deux anciens premiers ministres, proches de François Mitterrand, ils ont d'ailleurs tous les deux revendiqué son héritage, ils se sont disputés pour ça, Laurent Fabius et Lionel Jospin, qu'est-ce qu'on peut attendre de leur attitude ?
Alors, leur attitude, je ne sais pas. Notre avocat, Maître Spinozzi, a posé les termes de façon très claire au Conseil constitutionnel. Soit vous faites respecter la Constitution, les droits des citoyens et la Déclaration des droits de l'homme, soit vous faites une décision politique qui consiste à protéger le secret des gouvernants et à protéger leurs droits de quasi-propriété sur leurs archives publiques.
Quand il était Premier ministre, Jospin a poussé à la création d'une mission parlementaire sur le Rwanda, en faveur de la transparence, donc on peut imaginer qu'il aura la même attitude cette semaine, non ?
Je n'essaie pas d'imaginer, je constate que Lionel Jospin, effectivement, face au scandale créé en particulier par les articles de Patrick Saint-Exupéry en janvier 98 sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis, a créé une mission d'information parlementaire qui a eu à la fois un grand rôle dans la déclassification et la publication de très nombreux documents, donc qui a fait beaucoup avancer les choses de ce point de vue-là, et en même temps a essayé de faire des conclusions qui permettaient d'étouffer toute reconnaissance officielle du rôle de la France avant, pendant et après le génocide des Tutsis au Rwanda.
Alors sur le fond, François Graner, il semble que la relation Mitterrand-Habyarimana a été déjà très documenté depuis au moins une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau de ces dernières archives qui ne peuvent pas être consultées ?
Alors, on voudrait comprendre les mécanismes qui ont permis le soutien à une dictature et surtout le soutien à des génocidaires. Donc, comprendre comment la politique, en gros, on soutient un régime ami, quel qu'en soit le prix, comment ces mécanismes peuvent perdurer, même quand le prix à payer devient extrême, et c'est-à-dire qu'il s'agit d'un génocide. Donc, pour ça, pour comprendre les mécanismes, il faut vraiment faire un travail de fond sur un ensemble d'archives, et en particulier, si on veut arriver à pointer quels sont les responsables politiques, les responsables militaires et leurs relations au moment des décisions, qui savait quoi, à quel moment. Et en particulier, ce que j'ai pu voir permet de pointer chez les politiques le rôle très important de Mitterrand à titre personnel et l'autonomie qu'il accorde aux militaires, en particulier au chef d'état-major des armées, l'amiral Langsade, qui a lui-même une très grande autonomie qu'il revendique lui-même d'ailleurs, et dont on voit qu'il a un rôle central dans les décisions favorables aux génocidaires. Et on voit aussi le rôle du général Queneau apparaître.
Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que nous sommes à l'époque en cohabitation, gauche-droite, et que du coup, le Premier ministre Balladur, le ministre de la Défense Léotard, sont peut-être un peu marginalisés par Mitterrand, Langsade, Queneau.
Alors justement, la complexité des processus de décision en période de cohabitation se voit bien dans les archives, effectivement.
Quelle est la période sur laquelle vous attendez peut-être des pépites? Est-ce que c'est sur avant le 6 avril 94 ou après?
Alors, les trois zones d'ombre sur lesquelles c'est intéressant de travailler, où les archives peuvent donner des informations. La première, c'est le rôle éventuel de la France dans l'attentat du 6 avril 1994 contre le président Habyarimana, qui a servi de déclencheur au génocide des Tutsis qui a commencé le lendemain. Il y a la présence pendant le génocide de soldats français, et pour ça, là aussi, il y a peut-être une pépite dans les archives qui mentionne la présence d'un militaire avec un lance-roquettes anti-char français à Kigali, à un moment où officiellement il n'y a aucun militaire français pendant le génocide des Tutsis. Et puis, bien comprendre aussi les processus de décision de l'opération turquoise où la France a fait une très grosse intervention vers la fin du génocide avec 2500 personnes, officiellement humanitaires, arriver à comprendre en fait quel était son rôle offensif pour soutenir, encore une fois, le régime ami génocidaire. Et il y a beaucoup de questions qui se posent sur le fait que la capitale Kigali a tenu très longtemps face aux rebelles du Front patriotique rwandais et cette résistance est mal comprise. Tous les analystes disent que l'armée rwandaise ne devait pas résister. Et donc, sans soutien de l'armée française, c'est vrai qu'on a dû mal à comprendre ce qui s'est passé. Donc il y a une zone d'ombre à creuser réelle.
Est-ce qu'on peut parler à l'époque d'un petit groupe de 3, 4, 5 hommes maximum à Paris qui décide de tout, avec François Mitterrand bien sûr, à l'insu du Premier ministre et du ministre de la Défense?
Alors, à l'insu, pas complètement, mais il est de plus en plus clair qu'il y a une partie des décisions qui a été prise, effectivement, soit à leur insu et ils ont été informés a posteriori, soit même dans certains cas, à leur insu et ils n'ont probablement pas été informés a posteriori, puisque justement, il y a une opération secrète en 1993, un an avant le génocide des Tutsis, une opération de soutien à l'armée rwandaise. Apparemment, le gouvernement n'en a pas été informé. On était juste avant la cohabitation. C'était le gouvernement socialiste. Mitterrand, apparemment, avait décidé tout seul sans prévenir son ministère de la Défense. En tout cas, on ne voit aucune trace dans le Conseil que l'information a été donnée.
Donc ça ne tient pas seulement à la cohabitation.
Donc ça ne tient pas seulement à la cohabitation. Je dirais même qu'avant la cohabitation, le pouvoir était encore beaucoup plus centré sur Mitterrand et sur l'amiral Langsade. C'est-à-dire que la politique africaine militaire était gérée purement depuis l'Elysée et l'état-major. Et en particulier, six responsabilités françaises il y a eu dans l'attentat du 6 avril 1994, elle a probablement été décidée en tout petit comité.
François Graner, merci.